Parole aux auditeurs, votre émission vous donne la parole sur des sujets qui vous intéressent. Ce mercredi, nous allons parler des bourses d'études octroyées aux étudiants congolais en vue de poursuivre leurs études universitaires ou spécialisations à l'étranger. Ces bourses proviennent soit du financement public ou de la coopération bilatérale ou multilatérale de la RDC. La question, quelle est l'importance de ces bourses pour le développement de la RDC? L'équipe de parole aux auditeurs a invité pour vous Madame Skola Maingoali, conseillère chargée de la coopération et du partenariat au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, ce service en fait qui est chargé de l'octroi des bourses. Pour intervenir dans cette émission, contactez le 081-890-6315 ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Ben Kabamba, Pierre Lameji sont à la réalisation de cette émission. Encore une fois, bonjour. Aujourd'hui, parole aux auditeurs s'intéresse aux bourses d'études. Nous avons notre invité qui est dans ce studio. Bonjour, Madame Skola Maingo.
Bonjour, Madame.
Comme nous l'avons dit, vous êtes conseillère chargée de la coopération et du partenariat au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble dans ce studio pour parler des bourses d'études. En fait, cette bourse, c'est une attribution d'argent qui est donnée à un étudiant en vue de lui permettre de poursuivre ses études et d'obtenir une meilleure éducation. Nous parlons spécifiquement aujourd'hui des bourses octroyées aux étudiants en vue de poursuivre leurs études ou spécialisations à l'étranger. Madame Skola Maindo, vous êtes conseillère, donc vous connaissez bien ce domaine des bourses. Est-ce que ces bourses existent toujours?
Oui, Madame, les bourses existent.
Mm-hmm. Alors dites-nous, Madame, quels sont les critères d'attribution de ces bourses?
Merci, Madame, pour la parole. Mm-hmm. Pour être bénéficiaire de ces bourses, il suffit juste de demander. La première chose, disons, dans les critères, il faut être, bien sûr, de nationalité congolaise. Mm-hmm. Il faut avoir le diplôme universitaire pour ce qui concerne la bourse universitaire, parce que là, nous avons la bourse universitaire et la bourse post-universitaire. Mm-hmm. Donc, pour la bourse universitaire, une fois qu'on a les diplômes d'État, on est de nationalité congolaise. Bon, généralement, disons, on peut, parfois, ça dépend des pays, mais disons, l'âge, généralement, c'est moins de 40 ans. Mm-hmm. Et, pour les bourses universitaires, c'est plutôt vers les 25 ans, maximum d'âge. Et donc, une fois qu'on a rempli ces premiers critères, eh bien, on fait la demande, on dépose la demande au ministère de l'enseignement supérieur universitaire, précisément au secrétariat général, mm-hmm. où il y a toute une direction qui s'occupe de la coopération. Et c'est cette direction-là donc, qui reçoit les demandes, et à partir de ces demandes, bien sûr, il y a tout un comité qui sélectionne pour voir maintenant qui peut être bénéficiaire de bourses.
Mmh. Mais comment est-ce qu'un étudiant peut savoir qu'il y a des bourses en place? Est-ce qu'il y a un service de communication? Est-ce qu'on affiche les possibilités qu'on offre?
Oui, il faut dire que depuis que nous sommes là, pas depuis que moi je suis là, mais mmh. je vais dire au ministère de l'enseignement supérieur universitaire, maintenant quand les bourses sont proposées, parce qu'il faut dire que les bourses qui sont octroyées actuellement sont donc offertes par le pays donateur. Mmh. Et donc, une fois qu'un pays signale qu'il y a des bourses disponibles, eh bien, il y a un communiqué de presse, il y a une note circulaire qui est affichée dans les établissements publics et privés, et aussi on fait passer les communiqués à la radio et à la télévision nationale.
Donc, c'est parce que souvent les pays qui offrent ces bourses, ils ont leurs conditions. Tout cela est inscrit dans ce communiqué de presse.
Absolument.
Nous allons prendre Polybé à Kindu, Gaston à Kinshasa et Gentil à Guadeloupe.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, Polybé.
Oui, bonjour.
Oui, vous êtes à Kindu. Dites-nous un peu, vous avez suivi madame. On vous écoute, Polybé.
Bon, je viens de suivre madame avec consternation. Les bourses dont elle fait mention ne sont que profitables aux filles et fils des ministres, des ADG et autres grands hommes.
Mm-hmm.
Je pensais que madame parlerait des bourses qu'offrirait notre propre République. Oui. Le ministère de l'ESU ne parle que des bourses qui proviendraient d'autres pays, alors que nous avons un pays riche. Alors, nous sommes pauvres dans l'abondance. Alors, les réalités, je parle maintenant des bourses qui proviennent, parce qu'on nous dit que le gouvernement congolais donne, si c'est 10 000, si c'est 9 000 aux étudiants congolais, c'est bizarre. Les réalités ont tellement changé, à tel point que les étudiants congolais des années 60, qui ne dépassaient pas 1 000, pouvaient à juste titre bénéficier de la bourse. Mais penser payer la bourse des étudiants aujourd'hui, où même le nombre d'étudiants n'est pas connu, c'est peut-être penser donner le nombre des anges vivants au ciel.
Mm-hmm.
Alors, nous comprenons que la bourse d'études aux étudiants congolais n'est qu'un rêve du dernier jour. Le fonctionnaire de l'État, à qui on a déjà bouffé 50% du pouvoir d'achat, ne sont pas payés. Malgré cela, on voudrait donner quelque chose aux étudiants. C'est nous lever d'illusion. Le mieux serait que les parents soient convenablement rémunérés et que, à leur tour, puissent payer à leur fils.
Merci voilà, beaucoup. Merci, Polybé, pour votre intervention à partir de Kindu. Nous prenons directement Gaston. Bonjour, Gaston.
Bonjour, Marie Chantal.
Oui, vous êtes à Kinshasa, on vous écoute.
Ok, merci beaucoup, madame. Vraiment, le sujet du jour concerne personnellement. Avant de commencer mon premier cycle, à l'Institut du bâtiment et travaux publics, j'ai aussi fait le tour dans presque tous les ministères. Ce que madame dit, je ne suis pas d'accord avec elle. Elle est en train d'annoncer un processus qui reste dans le texte, mais qui n'est pas applicable. C'est pour ce temps qu'elle parle. Elle s'est octroyée aux enfants des ministres et des personnalités de ce pays. Les gens qui n'avons pas de parents ministres, on n'a pas accès à ces bourses. Je vous donne un exemple, madame. Nous avons réussi à 2004 de bourses provenant de la Tunisie et du Maroc pour le premier cycle, c'est-à-dire premier graduat et la suite.
Mm-hmm.
Nous avons soumis un demande avec un ami, nous étions dans les critères avec les pourcentages demandés, les sociétés complètes. Mais je vous dis, madame, après 3-4 mois ont passé, il n'y avait même pas de chute. On dirait que non, mais ils sont déjà partis, ils sont sélectionnés, on n'a pas fait signer un examen. Directement,
mm-hmm.
là, madame, je suis en train d'entreprendre le démarche dans ce sens d'avoir une bourse pour continuer mes études supérieures. Je suis ingénieur technicien, mais j'aimerais faire le second cycle ailleurs. Nous ne voyons pas la part du gouvernement congolais. Or, c'est ça aussi que le gouvernement devait prendre en considération, parce qu'on ne peut pas fonder une nation si on n'a pas un peuple qui est instruit. C'est vraiment impossible. Je suis en train de faire une démarche, j'ai été deux fois à faire l'étranger, je préfère même aller quitter l'étranger avec mes propres moyens. Mais je vous dis, madame, personne ne met dans la démarche. Je serais curieux et intéressé d'avoir le conseil de madame qui est votre invité sur place et qu'elle nous dise ce qui se passe pratiquement, dans le texte.
Merci beaucoup, Gaston. Vous vous inquiétez, vous dites même que vous avez tenté à plusieurs reprises de pouvoir bénéficier d'une bourse, mais jusqu'à présent, ça n'a pas vraiment.
Je pourrais aller faire mon second cycle pour la saison qui va commencer 2010-2011.
Donc,
pour
oui, donc Gaston, vous voulez avoir plus d'informations si réellement ces bourses sont octroyées à des personnes qui n'ont pas carrément des liens avec des ministres ou avec des grandes personnalités dans ce pays, vous vous en plaignez. Bonjour, gentil.
Oui, bonjour. Je partage le même point d'avis que les premiers auditeurs et concernant la bourse étrangère.
Mm-hmm.
C'est souvent fois, les gens du province de Kinshasa qui sont bénéficiés de cela. Tel est notre cas dans la province. Je suis étudiant dans une nouvelle institution qui est à sa 4e année d'existence. Le centre universitaire de Fatalis, c'est une extension de l'unité. Mais ce qui nous concerne au niveau des provinces, c'est concernant la bourse qu'avait promis donc le gouvernement en collaboration avec le ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Comme la dame qui est là au studio est membre de cette institution, c'est-à-dire du ministère de l'enseignement supérieur universitaire, qu'elle puisse nous dire concernant la bourse qu'avait promis le gouvernement concernant les étudiants presque de fin de cycle. Et on n'a jamais bénéficié de cette bourse aussi longtemps que nous sommes étudiants et nous comptons, nous sommes peut-être, nous ne sommes pas connus sur le plan national, permettez-moi les termes, et peut-être qu'on est une nouvelle institution, peut-être on se trouve un peu dans un autre pays, dans une autre république qui n'est pas le Congo, parce qu'on n'a jamais bénéficié du soutien du gouvernement concernant quand même notre institution, et on n'a pas les yeux braqués sur nous. Et je voulais un peu savoir les précisions sur ce point de vue que la dame puisse nous dire concernant cela. Mais en ce qui concerne la bourse étrangère, souvent fois, ce sont les enfants des bourgmestres, des Kinshasa, les enfants des ministres qui en ont bénéficié. Mais nous qui sommes en province, nous ne pouvons pas intervenir à juste titre concernant ces problèmes. Mais nous, la question elle reste à savoir concernant notre province, nous qui sommes de la province, et concernant notre avenir, et aussi le temps qu'on est étudiant, qu'on nous dise un peu concernant les bourses qu'avait promis le gouvernement en collaboration avec le ministère de
l'Éducation. Merci, gentil. Vous avez une préoccupation, deux préoccupations. D'abord, la première, de savoir qu'en est-il des bourses que le gouvernement a accordées aux finalistes dans les instituts supérieurs universitaires et aussi les instituts supérieurs, parce que vous pensez que, par exemple, votre université ne bénéficie pas de cette bourse, mais aussi vous voulez avoir plus d'éclaircissements sur les bourses qu'on octroie aux étudiants en vue d'aller continuer leurs études à l'étranger. Nous prenons Sengi qui est à Kinshasa. Bonjour Sengi. Sengi?
Madame.
Oui, Sengi, on vous écoute.
Ok, madame, bon, je suis quand même content que j'ai écrit concernant les bourses d'études. Mais j'ai quelques préoccupations que je voulais présenter et puis surtout m'adresser à madame qui a intervenu tout à l'heure aujourd'hui. Moi, je me demande d'abord, est-ce qu'il existe vraiment une bourse dans notre pays? Et si vraiment elle existe, qui en sont les bénéficiaires? Parce que je suis d'avis de mes professeurs qui venaient dire que les bourses qui sont octroyées sont réservées à une catégorie de personnes, notamment les autorités de ce pays. Bon. J'ai voulu poser un problème. Quels sont les critères de choix pour que un chercheur puisse avoir cette bourse? Quels sont les critères? Parce que nous sommes déjà passés dans une situation où vous devez avoir accès aux bourses, vous remplissez toutes les conditions possibles, mais quand la bourse sort, vous n'êtes pas en retard. Que non, la bourse était de votre fille et que c'est une autre personne qui était partie, et même si elle n'est pas sélectionnée. Aussi, il y a un autre problème, c'est comme mon professeur Jean-Louis l'a dit, ces bourses sont focalisées dans la plupart des cas ici à Kinshasa. Nous avons, s'il vous plaît, 11 provinces. Comment ne pas répartir les bourses selon les domaines, selon les provinces? On dit par exemple, nous avons besoin de 10 boursiers. Alors, comme nous avons 10 provinces, nous prenons pour ce cas ici 5 provinces ou bien 6 par exemple. Comme ça, quand notre possibilité va se présenter, on permettra à d'autres professeurs qui ont manqué. Alors, il y a un devoir de l'engager à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi le problème de tribalisme dans cette histoire de doctorat de bourse. On dirait que ce sont les enfants de ou la famille de qui sont examinés. Aussi, dans le champ des universités, il y a beaucoup, je ne sais pas, c'est comment dans l'université publique on doit octroyer les bourses. Les institutions privées. On n'a même pas. Et si même cela, dans certaines universités, d'autres facultés, on ne donne pas. Moi, j'ai fini en philosophie et je suis en quête d'une bourse. Mais comment le faire pour obtenir? On dirait que les philosophes ne sont pas considérés, ils sont négligés. Peut-être qu'ils sont considérés comme les économistes, les juristes et d'autres.
Merci.
Mon point de vue, madame, par rapport à.
Merci Sengi pour votre avis aussi. Vous avez fait des propositions pour permettre à toutes les provinces de pouvoir bénéficier en fait de ces bourses à l'étranger. Aussi, vous avez eu des préoccupations concernant la bourse que le gouvernement doit donner aux étudiants ici en RDC. Merci Sengi pour votre participation. Bonjour Steve.
Bonjour madame.
Oui, vous êtes un Bandaka, on vous écoute.
Ah, merci beaucoup pour le débat d'aujourd'hui. Je vais d'abord dire que c'est avec un sentiment de consternation que j'ai vu participer à cette émission, étant étudiant et voyant les situations socio-économiques qui sont en train de traverser, c'est avec beaucoup de consternation. Je vais un peu dire que jusqu'à la prise du contraire, le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a pas encore démontré sa volonté de servir le peuple à travers cette éducation. En oubliant que les cadres du pays, dont personne ne viendront de ce secteur, le gouvernement se laisse un peu dissiper pour certains faits qui ne sont pas cadrés. L'éducation n'est pas une priorité chez nous. Je vais intervenir sur certains faits. L'étudiant a vu été promis par le gouvernement que vers la fin du cycle, on peut avoir une certaine subvention, je n'appelle pas ça une bourse, mais une certaine subvention, un certain conditionnement pour pas contribuer au moins vers la finalité de nos études. Jusqu'à la preuve du contraire, cette situation est restée confuse, on sait d'où on est et qu'est-ce qu'on s'attend. Le gouvernement ne se prononce pas sur cette question, on se pose la question. Est-ce que le gouvernement actuel, dirigé par l'ANP, pense un jour pour le devenir de ces pays en négligeant l'éducation, en négligeant l'enseignement supérieur universitaire?
Vous avez aussi posé plusieurs questions, vous voulez avoir plus d'informations sur les critères, vous pensez qu'il y a un manque de volonté à pouvoir encadrer les jeunes, les autorités de demain. Vous aurez vos réponses avec notre invité qui se trouve dans ce studio. Nous prenons d'abord Julien qui est à Bukavu. Bonjour Julien.
Oui, allô.
Oui, Julien, on vous écoute. Quelles sont vos préoccupations?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour à notre auditeur.
Mm-hmm.
Et pour me dire, en tout cas, de tout ce que vous venez de parler là, tout ce qu'on est en train de discuter, je donne à tous ceux qui ont déjà passé devant moi. Du coup, je ne sais pas comment est-ce que je peux m'expliquer, parce que ça cause beaucoup de colère de parler de tout cela.
Mais quand même, exprimez-vous, mais d'une façon assez avec courtoisie, respect des autres auditeurs. On vous écoute, Julien. Oui. Que pensez-vous des bourses?
Je vais poser tout d'abord la petite question que j'ai, et puis je peux donner ma préoccupation. Je vais vous dire ceci. Est-ce que ces bourses que vous êtes en train de dire, est-ce que ça existe tout d'abord au Congo, bien ça arrive, ou bien ça arrive pour les gens avec qui ça fait tout simplement?
Donc c'est une préoccupation. Oui,
on vous écoute. Oui. Je sais que je pose la question.
Merci.
Ça arrive pour tous les Congolais ou bien pour les gens de qui
pour une certaine catégorie de personnes.
Parce que c'est pour les gens de qui ça, qui bénéficient toujours. Les gens de la région ne bénéficient pas rien.
Merci Julien pour votre intervention.
Parole aux auditeurs.
Madame Scola, vous avez suivi nos auditeurs, plusieurs préoccupations. Est-ce que vous pouvez donner plus d'informations sur des détails sur les critères, en fait, pour bénéficier d'une bourse? Oui, madame, merci. Effectivement, pour les critères, je crois que je l'avais déjà abordé, mais je vais revenir là-dessus. Je disais, pour recevoir, pour être bénéficiaire d'une bourse, il fallait être de nationalité congolaise. Il fallait, pour les bourses universitaires, avoir obtenu son diplôme d'État. Généralement, c'est avec au moins 70%. Et comme je l'avais aussi déjà stigmatisé, il y a des pays qui exigent d'avoir 85% ou plus, parce que ce sont quand même des bourses d'excellence. Et aussi, je parlais de l'âge. J'ai dit pour les bourses universitaires, c'était l'âge limite, c'était 25 ans. Et pour les bourses post-universitaires, l'âge limite, c'était 40 ans. Et une fois maintenant qu'on avait rempli ces quelques conditions, il fallait aller déposer la demande au ministère de l'enseignement supérieur universitaire, précisément au secrétariat général, où il y a toute une direction qui s'occupe de la coopération. Mais après avoir déposé les demandes, toutes ces demandes sont enregistrées, et j'avais dit qu'il y avait un comité de sélection. Dans le comité de sélection, il y a bien sûr des représentants du ministère de l'enseignement supérieur universitaire, mais il y a aussi les représentants du ministère de la recherche scientifique,
ainsi que les représentants du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale.
Mm-hmm.
Bon, parfois aussi, je peux même dire plutôt généralement, il y a aussi les représentants du pays donateur. Et donc, c'est dans ces comités qu'on sélectionne maintenant mm-hmm. les personnes qui méritent, donc qui sont bénéficiaires de ces bourses.
Et à entendre nos auditeurs, ils se plaignent, ils ont l'impression que ceux qui bénéficient de ces bourses, ce sont seulement des enfants des autorités du pays, et aussi se plaignent du fait que c'est seulement à Kinshasa où ils constatent qu'il y a des personnes qui bénéficient de ces bourses.
Mais pas du tout, madame. Ce ne sont pas les enfants des ministres et des autorités politiques, parce que, comme je l'ai dit, quand les bourses arrivent, quand les bourses sont disponibles, les communiqués passent à la radio et à la télévision nationale, les communiqués passent aussi dans les journaux, et même j'ai dit que c'était aussi affiché.
Parce que ce sont des formalités vaines, en fait, parce qu'ils pensent qu'il y a déjà des personnes qui sont présélectionnées.
Non, pas du tout. Je peux même, pour illustrer, j'ai dit, il y a par exemple les bourses qui avaient été octroyées par les Cubains. Alors, nous avons, je crois, une vingtaine de compatriotes qui sont au Cuba. Ils ont terminé leurs études, mais puisque dans les conventions, leur retour était conditionné, donc c'est la RDC qui doit payer leur billet retour, et bien actuellement, la RDC, les compatriotes ont écrit pour qu'on puisse leur envoyer les billets retour. Si c'était les enfants des ministres et autres, je crois que le problème ne se poserait pas. Donc, c'est juste pour dire que les bourses ne sont pas là pour les enfants des ministres et tout. Les bourses sont disponibles pour n'importe qui remplit les critères et qui fait sa demande à temps, parce qu'il y a aussi un problème de temps. Il y a des pays où on sélectionne les boursiers avant le mois de mai, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a l'année académique qui commence à un certain moment. On ne peut pas déposer la bourse n'importe quand.
Est-ce qu'il n'y a pas un déficit d'information, par exemple, pour ceux qui ont déposé leur dossier et après, on a un silence radio, peut-être qu'il n'y a pas, on n'arrive pas à leur expliquer s'ils ont été retenus ou pas, ou bien ils doivent faire des tours au niveau du ministère pour savoir s'ils ont été retenus ou pas. Donc, est-ce qu'il y a vraiment cette communication active?
Bon, de toute façon, pour les gens qui ont déposé les bourses, on répond que les bourses sont, on les enregistre. Et puis, pour ceux qui sont retenus, comme partout ailleurs, on affiche, ils sont informés qu'ils ont été retenus. Donc, je crois que c'est tout simplement de cette façon-là que les gens peuvent être informés. Mais surtout, il faut savoir où est-ce qu'il faut déposer la demande. Parce que si vous ne déposez pas la demande à la bonne place, eh bien, à ce moment-là, c'est difficile que vous puissiez aussi faire un bon suivi.
Oui, mais aussi, pouvons-nous avoir plus d'informations sur la bourse d'études qui était octroyée aux étudiants congolais dans les finalistes, en fait, de cycles? Parce qu'il y avait un moment, en 2007, il y avait certaines institutions qui avaient bénéficié, mais ça fait un bon bout de temps que, selon nos auditeurs, on n'entend plus parler de cette bourse-là. C'était presque 30 dollars, je pense, à l'époque, la valeur de 30 dollars en francs congolais.
Oui, je suis étonné d'entendre les gens dire « était, existait ». Cette bourse n'existait pas. Cette bourse continue à exister. Cette bourse existe toujours. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, pour que les étudiants puissent bénéficier de ces bourses, il faut que les établissements publics, que les universités et les institutions, les instituts supérieurs, puissent envoyer la liste de leurs finalistes à temps. Mais voilà, madame.
Attends, ça signifie avant quel mois?
Bon, donc là, vous savez que l'année académique commence au mois d'octobre.
Mm-hmm.
Il faut donc qu'ils puissent envoyer rapidement la liste de leurs finalistes.
Mm-hmm.
Mais vous savez, madame, jusqu'au mois de décembre, il y a, disons, de l'année passée, on n'avait presque pas d'informations. Les établissements n'avaient pas envoyé la liste de leurs finalistes. Et maintenant, aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, nous sommes déjà au mois de mai, mais il y a encore environ 100 établissements, donc universités et instituts supérieurs, qui n'ont toujours pas envoyé la liste de leurs finalistes. Donc, à ce moment-là, ça devient difficile pour le ministère de formuler les demandes pour dire, voilà, il faudrait payer la bourse aux finalistes. Mais cette bourse, elle existe bel et bien, et les démarches sont là. Je crois que toutes les autres années, depuis 2006, depuis que le gouvernement a pris la décision de payer cette bourse aux finalistes de 3e graduat et de 2e licence, eh bien, le gouvernement respecte ses engagements.
Mais est-ce que vous avez fait un suivi pour savoir pourquoi ces institutions traînent le pas? Parce que les étudiants, il y en a même qui ont déjà fini, qui n'ont toujours pas reçu cette bourse. Et cette bourse, des fois, a des retards d'un mois, deux mois, trois mois. Est-ce qu'on arrive à payer les arrivées? C'est autant de questions que les étudiants se posent.
Madame, les établissements publics sont toujours en contact avec les ministères à travers toute une direction qui est là. Et donc, on leur écrit, pour ceux qui ont des emails, eh bien, on leur envoie des mails pour rappeler
pour ceux qui ont des téléphones, parfois même nous faisons les suivis, même au téléphone par les SMS. Pour rappeler, voilà, il y a la date limite, vous n'avez pas encore envoyé la liste de vos finalistes, vous n'avez pas encore respecté les engagements, et donc, mais les établissements traînent les pieds. Alors à ce moment-là, nous aussi, ça nous bloque pour que nous puissions formuler les demandes d'attente. Mais maintenant, bon, comme je l'ai dit, pour les établissements qui ont déjà envoyé les listes, eh bien, les démarches sont en cours. Et je crois que, je ne vais pas dire quand, parce que là, c'est quand même, ça entre dans
donc, pour l'instant, vous demandez aux étudiants de former une délégation d'aller voir leur responsable académique pour savoir où est-ce qu'ils en sont.
Je ne sais pas si je pourrais demander que les étudiants puissent faire ça, mais nous disons seulement que les établissements sont informés, qu'ils doivent envoyer la liste de leurs finalistes. Ils sont informés donc depuis le début de l'année, parce qu'à chaque année académique, il y a des instructions qui sont données aux établissements, mais ce sont les établissements qui prennent les pieds et ils ne respectent pas du tout les dates.
Merci madame. Il y a déjà Jean-Paul qui est au bout du fil à partir de Béni et Christian à Kwandroma, ça c'est dans la province orientale.
Parole aux auditeurs.
Vous êtes branchés sur Radio Capi, vous suivez l'émission Parole aux auditeurs ce mercredi. Nous parlons des bourses d'études octroyées aux étudiants congolais en vue de poursuivre leurs études universitaires ou des spécialisations à l'étranger. Ces bourses proviennent soit du financement du gouvernement congolais ou de la coopération bilatérale ou multilatérale. Et la question aujourd'hui pour notre débat, quelle est l'importance de ces bourses dans le développement de la RDC? Vous avez deux possibilités pour participer à cette émission, comme l'a fait Jean-Paul au bout de fil à partir de Béni ou Christian à Kwandroma. Vous pouvez nous contacter au 081 890 6315 ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiotapi.net. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour, c'est Jean-Paul Capitoul à partir de Béni.
On vous écoute Jean-Paul.
Oui, je voudrais juste réagir face à ce que notre invité et un peu dévoilé comme information sur le bourse d'études. Ma préoccupation d'abord serait, il y a deux préoccupations et quelques suggestions. La préoccupation serait de savoir où sont disponibles ces fonds et comment, à qui ces fonds sont destinés. Parce que là, j'ai appris que il y a les fonds pour ceux qui viennent franchement des humanités et ceux qui sont passables, ils ont fini le premier cycle. Et deuxième préoccupation, maintenant, comment y accéder? Voilà qu'il y a des prédécesseurs qui ont essayé de donner ces signes forts. Elle a évoqué la FNC, mais qu'elle n'arrive pas dans d'autres provinces comme chez nous. C'est rare qu'on puisse rencontrer la FNC qui va s'écouter à Mangina, qui va s'écouter à Mutuanga, qui va s'écouter à Kasindi. Donc, ce sont des faits forts. La FNC ne peut pas être accessible comme radio télévisée, mais je demande maintenant comment. Alors, je ne sais pas comment, les préoccupations sont presque trois. Oui, il y a maintenant, et je voudrais dire ceci, c'est si on pouvait attribuer ces bourses d'études, il fallait qu'on puisse notamment tenir compte des urgences de chaque province et territoire, parce que il y a des fois où on peut aller étudier une notion qui ne serait pas importante pour ou des valeurs, comme l'a dit le ministre Macha Komamba, qui disait que l'étudiant qui finit les études n'est ni étudiant à la vie, mais ni étudiant à la société. Et donc, il fallait tenir compte des urgences. Autre chose, que cela ne soit pas seulement aux étudiants de Kinshasa, parce que comme l'a dit mes prédécesseurs, qui dites de tout de même en contact que parfois ce sont des gens de Kinshasa qui participent au cours de l'étude, ou sont des enfants des ministres, ou des enfants des délégués des grandes entreprises. Et donc c'est horrible pour nous. Autre chose,
oui, vous avez dit que vous avez des propositions et des suggestions, Jean-Paul.
Oui, ce sont des propositions et des suggestions.
Oui, on vous écoute.
Oui, autre chose, la troisième proposition, c'est que ces bourses d'études soient effectuées sur base d'un examen d'admission qui serait distribué sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, parce que le pays est un et uni. Et donc, on devrait tenir compte de ça, parce qu'il y a parfois quand on fait donner des exigences comme dire que non, on distingue la distinction. Moi, je dirais que la distinction n'est pas une raison, parce qu'il y a ceux qui distinguent car ils ont des relations avec les autorités académiques ou les autorités de l'école. Il y a ceux qui distinguent par tricher, ils ont triché les examens. Et il y a aussi ceux qui distinguent parce qu'ils ont corrompu, et ils sont des corrupteurs. Et donc là, si on attribuait ça sur base des distinctions ou des niveaux d'études, on a terminé avec satisfaction et cela pourrait mettre un peu
des crochets pour ceux qui sont, parce que ceux qui sont très forts. On ne peut pas essayer, mais alors qu'on a quand même une valeur intellectuelle énorme et qu'on peut aller valoriser son pays à l'étranger, donc avec les études.
Merci beaucoup Jean-Paul, vous pensez qu'il y a vraiment du flou dans l'octroi des bourses aux étudiants. Vous êtes revenu à partir de Béni. Bonjour Christian. Christian, 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 est-ce que vous pouvez vous déplacer, être à un endroit assez calme où on peut vous écouter facilement? Christian, bonjour. Christian, on n'arrive pas à joindre Christian. La réalisation fera un effort pour pouvoir le recontacter, pour qu'il puisse aussi s'exprimer. Nous prenons Xavier, ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, madame.
Oui, Xavier, on vous écoute.
Oui, madame, je vous remercie pour ce sujet qui est très intéressant. Et en le suivant, je suis vraiment en train de rire parce que ça fait près de 10 ans que j'ai terminé mes humanités. Je suis ici à Kinshasa. Et je voudrais vous dire, madame, que j'ai beaucoup d'anecdotes en ce qui concerne l'octroi des bourses.
Oui, vous
avez... Je vais vous en donner juste une. Il y a près de 10 ans, l'ambassade du Canada avait donné des bourses.
Mm-hmm.
Ces bourses ont été affichées au ministère des Affaires étrangères ici à Kinshasa. Et je vous dis, je vous assure que ça a drainé tellement de monde. Mais c'est devenu un fonds de commerce, ces histoires de bourses.
Mm-hmm.
Vous arrivez aux affaires étrangères. Il faut photocopier le formulaire. C'est 100 francs. Et si ce n'est pas 100 francs, on vous exige plus. Et dans les couloirs du ministère des Affaires étrangères, c'est plein de fonctionnaires qui n'attendent que ça, qui vous épient un peu comme on le voit dans nos communes ici.
Mm-hmm.
Vous arrivez pour demander un document, on vous tiraille à gauche, à droite. Et vous savez, la ville de Kinshasa est pleine. Et je vous assure que nous sommes passés comme ça. On nous a même fait acheter des passeports, ainsi de suite.
Sans et avoir encore eu la bourse.
Pour finir, madame, nous ne sommes jamais partis. Nous sommes encore ici à Kinshasa. Et j'ai pris quand même la précaution à l'époque d'aller me renseigner même au cabinet du ministre.
Mm-hmm.
Parce que je connaissais quelqu'un là-bas. Et en arrivant, on me montre la note circulaire qui venait de l'ambassade du Canada. Demandez-moi, madame, il y avait combien de bourses?
Combien de bourses?
2 bourses seulement. Mm-hmm. Et deux bourses ont pratiquement mobiliser toute la ville de Kinshasa. Et en suivant ce dossier, vous savez qui sont partis?
Et qui sont partis?
La nièce du ministre de l'époque et la fille du DIRCAP. Et malheureusement, qui ne sont jamais arrivés à destination, qui sont quelque part en Afrique et en Europe là-bas.
Mmh.
Donc, moi, je voudrais confirmer ici que cette histoire de bourse appartient à une certaine catégorie, notamment à nos dirigeants qui sont en train de gérer ces histoires à leur niveau. Ça se passe de manière tellement floue. Vous arrivez, madame dit que c'est annoncé à la télé. Peut-être que je vis sur Mars, mais combien de fois a-t-on suivi sur la télévision nationale qu'on a annoncé qu'il y avait des bourses?
Mm-hmm.
Combien de fois a-t-on publié dans nos journaux entendu à la radio? C'est très rare. Mais quand vous allez là-bas, vous trouvez que c'est tout un système qui est organisé pour rançonner les pauvres citoyens, pour piller la population. Et Dieu seul sait si ça pourra changer. Peut-être maintenant, mais à notre époque, j'ai même eu à perdre, une autre anecdote, à perdre mon passeport dans ce genre d'aventure.
Mais qu'est-ce qui s'est passé, Xavier?
Oui, madame.
Qu'est-ce qui s'est passé en perdant? Comment
oui,
vous avez perdu votre passeport?
Toujours dans ces histoires, bourse par-ci, bourse au ministère de l'enseignement et primaire secondaire à l'époque.
Mm-hmm.
Nous y allons, on nous demande nos passeports. C'est un monsieur qui entre dans le bureau avec nos passeports et qui n'est plus jamais revenu.
Donc, vraiment, il n'y a pas d'avenir pour vous
concernant. Non, madame, moi je pense que les compatriotes qui y vont et qui ont des diplômes, c'est vraiment une minorité.
Mm-hmm.
Mais en grande majorité, ce sont les enfants des fonctionnaires des affaires étrangères. Quand vous allez là-bas, c'est facile à voir, hein, c'est facile à voir.
Merci Xavier pour votre témoignage. Madame qui est ici sur place pourrait nous donner peut-être d'autres témoignages parce qu'ils sont vraiment nombreux, hein, les auditeurs qui veulent participer à cette émission et qui ont vraiment des préoccupations et qui ont eux-mêmes vécu vraiment cette situation. Bonjour Lambic.
Bonjour madame.
Vous êtes aussi à Kinshasa, Lambic, on vous écoute.
Oui, je voudrais seulement donner un conseil à madame là qui est la conseillère du ministre.
Mm-hmm.
C'était pour lui dire de ne pas rester dans la langue de bois. Nous connaissons tous les textes, elle est aussi en train d'évoquer les textes qui existent, mais la réalité, que les gens vivent. Et c'est celle que vos auditeurs et nos compatriotes sont en train de dénoncer. On connaît ce qui se passe dans ce pays, et il y a la corruption et tout le reste. Les enfants qui vont là-bas avec les bourses, s'il y a bourse, ce sont les enfants des ministres, on le sait tous.
Mm-hmm.
Et souvent des gens qui ne vont pas étudier d'ailleurs réellement, mais qui vont seulement en villégiature en Europe.
Mm-hmm.
Il y a un cas que je connais très bien, en Grèce. En Grèce, il y a à peu près 30 de nos compatriotes qui sont là-bas. Il y a des compatriotes qui viennent d'où? Tous les 30 sont des Qataris.
Mmh. Donc, c'est assez difficile de la bourse de la Grèce. Mmh. Donc, c'est assez difficile, il y a trop de conditions. Vous parlez qu'il y a même le tribalisme dedans, il faut être soutenu.
Donc, ce que madame est en train de raconter là-bas, bon, c'est des textes, bon, elle dit juste ce qui est prévu dans les textes, mais la réalité est.
C'est autre chose. Merci beaucoup, Lambic, pour votre intervention. Vous avez témoigné de ce qui se passe concernant autour des bourses d'études. Et aussi Xavier qui a donné son témoignage hein, par rapport à cette situation assez difficile.
Parole aux auditeurs.
Madame Scola Moindo, autant de préoccupations, c'est vrai que pour accéder à ces bourses, c'est assez difficile selon nos auditeurs qui ont vécu cela, mais aussi notre question déjà pour accéder, c'est difficile maintenant le peu d'étudiants qui arrivent à partir, des auditeurs ont déclaré qu'ils ne reviennent même pas. Est-ce que vous arrivez à faire un suivi pour savoir pour ceux qui bénéficient de ces bourses, est-ce qu'ils reviennent ou pas?
Oui, merci madame. En fait, avant que je ne puisse répondre à celle-là, je voudrais répondre à la première question. Donc, les difficultés que les gens rencontrent, et il y a beaucoup de gens qui pensent que ce que nous racontons ici, c'est juste ce que les textes disent. Mais je vais illustrer pour cette année seulement, pour 2010. Au mois de mars, il y a eu des bourses, c'est des bourses de courte durée qui ont été offertes par la Corée.
Mm-hmm.
Mais les communiqués ont été affichés. Pour ceux qui veulent le savoir, ils peuvent aller à l'ISP Gombe, ils peuvent aller à l'UPEN, ils peuvent rencontrer même les autorités de ces établissements, ils vont leur démontrer que effectivement les communiqués étaient passés et même affichés. J'ai donné les deux établissements.
Ils n'étaient pas, n'avaient pas des relations directes avec.
Non, justement, ils peuvent voir qui sont les étudiants et les étudiantes qui sont partis. Il y a eu le bourse, il y a la Chine qui a aussi proposé quelques bourses pour cette année toujours. Et ça, c'était pour le mois d'avril. La date limite, c'était pour que les gens puissent déposer les candidatures, c'était le 30 avril.
Mm-hmm.
Les communiqués étaient aussi passés, et il y a eu des candidatures. Malheureusement pour la Chine, il n'y a pas eu beaucoup de gens, parce que là, les exigences étaient que les gens puissent bien connaître l'anglais.
L'anglais.
Non, c'était tout simplement l'anglais. Et donc, quand, par exemple, il y a des conditions comme ça, eh bien, il y a aussi beaucoup de candidats qui ne peuvent pas être sélectionnés. Donc, il y avait l'anglais, mais je crois qu'il y avait aussi quelque chose directement lié avec la Chine.
Mm-hmm.
Et donc, ça faisait que finalement, on n'a pas eu beaucoup de candidats. Il y a encore le bourse pour la Pologne. Le bourse pour la Pologne, c'est juste deux bourses, mais qui sont co-parrainées par l'UNESCO. Eh bien, pour le moment, ça court encore. C'est jusqu'au 30 mai. Les communiqués sont passés, et donc,
mais pour les provinces.
J'avais dit, madame, pour ce qui concerne les provinces, j'avais dit, il y avait la radio et la télévision nationale, il y a des gens qui disent que ça n'arrive pas dans toutes ces provinces. Malheureusement, nous ne pouvons rien pour ça.
Mais il y a des divisions,
les établissements qui ont, par exemple, qui ont les mails, eh bien, on les contacte par mail, madame. C'est vrai que la radio et la télévision n'arrivent pas partout. Mais il y a beaucoup d'informations qui circulent dans ce pays parce que si vous avez les gens qui sont ici et qui apprennent, mais ils informent leurs frères et leurs sœurs, et ainsi que les directions, que les divisions, comme vous dites là. Donc nous, ce que nous faisons, nous utilisons les moyens qui sont disponibles pour qu'on puisse atteindre le plus de monde possible. Si maintenant les gens ne réagissent pas, comme j'ai dit, il y a actuellement les bourses pour la Chine, il y a des gens qui ne réagissent pas. Mais il faut aussi que je précise, madame, il y a une autre question. À laquelle j'aimerais quand même répondre, ça concerne les priorités. Si les pays donateurs précisent, comme là, je venais de parler de la Chine qui propose des bourses pour l'agriculture, il y a la Pologne qui a proposé des bourses pour les lettres et la philosophie, il y a l'Inde qui propose des bourses pour sciences et technologies. Bon, donc, ça fait que ce n'est pas le ministère qui, bien sûr, le ministère des priorités, que nous avons fait connaître aux partenaires. Mais le pays donateur, quand il propose la bourse, nous ne pouvons donc afficher ou communiquer que pour ce secteur-là précis. Mmh. Donc, C'était maintenant, après ça, oui. Je peux répondre.
Nous revenons à notre question pour savoir le peu de personnes qui bénéficient de cette bourse, est-ce qu'il y a un suivi?
Oui, madame, il y a un suivi, mais il faut dire que le suivi est difficile. Mais quand même, nous le faisons parce que nous avons avec nous la liste des gens qui reçoivent les bourses et qui partent. C'est justement pour ça qu'on doit suivre la procédure, déposer les candidatures au niveau du secrétariat général de l'ESU. Parce qu'à ce moment-là, nous pourrons bien sûr pour savoir qui est parti, dans quel pays, pour combien de temps, qu'est-ce que fait la personne après ses études. Mais quand, par exemple, les gens partent dans tous les sens, ils déposent n'importe où, ou il y en a qui partent directement par les ambassades, sans que le ministère ne puisse à ce moment-là être associé, ça c'est difficile pour faire le suivi. Et donc à ce moment-là, madame, je pourrais enchaîner pour dire effectivement que les gens réclament les bourses, mais il y en a beaucoup qui partent aussi et qui ne reviennent pas, qui peuvent disparaître dans ces pays-là. Et donc ça c'est un manque à gagner, il y a la fuite des cerveaux, qui est vraiment un handicap, un désavantage pour les pays, la RDC que nous sommes. Nous voulons avoir les renforcements de capacités, des ressources humaines, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas disposés du tout à revenir. Mais nous faisons le suivi.
Peut-être à cause des conditions, par exemple quelqu'un qui était à Kinshasa, qui a une spécialisation, je ne sais pas, dans une université, peut-être de journalisme à Lille, et qui revient à Kinshasa, les conditions, par exemple, de salaire ne sont pas assez adéquates. Vous pensez vraiment qu'une personne peut retourner à Kinshasa dans ces conditions-là? Est-ce que le ministère pense aussi à des propositions pour pouvoir encadrer en fait ces experts qui vont revenir en RDC?
Madame, pour la plupart des boursiers qui sont partis, en tout cas pour les enseignements, pour les études post-universitaires, pour la plupart qui sont partis et qui reviennent, je ne pense pas du tout qu'ils sont en train de chômer. Parce que, en ce qui concerne, par exemple, l'enseignement supérieur universitaire, nous avons un problème d'enseignants. Il n'y a pas beaucoup d'enseignants dans plusieurs domaines. Et donc, quand quelqu'un est parti, avant de partir, il était ici. Il travaillait, par exemple, il était à l'université de Kinshasa ou dans n'importe quel institut supérieur. Il a obtenu la bourse. Il est parti pour renforcer ses capacités. Il est parti pour faire ses recherches. Quand il termine, s'il ne veut pas revenir au pays, c'est de la mauvaise foi parce que c'est lui maintenant qui ne veut pas revenir dans ces pays alors qu'il avait obtenu la bourse pour aller juste renforcer les capacités et revenir pour y travailler.
Et les conditions salariales surtout.
Oui, mais madame, comme je l'ai dit, mais quand on part, si vous voulez partir, vous voulez avoir la bourse pour rester dans les autres pays, moi je me dis à ce moment-là, autant ne pas chercher la bourse. Parce que quand les pays donateurs offrent les bourses aux pays, c'est pour renforcer les capacités de ces pays-là. Mais vous voulez obtenir la bourse, mais vous n'avez pas du tout la volonté de revenir au pays parce que les conditions sont difficiles. Mais les conditions sont difficiles, c'est vrai, ça peut s'améliorer si nous sommes tous ensemble en train de travailler. Et tout le monde donc n'hésite pas de rester là.
Parole aux auditeurs.
Nous avons au bout du fil le professeur Jean-Pierre Mavoina. Le professeur Jean-Pierre Mavoina, il est directeur du Centre de Recherche Scientifique et Universitaire de Kinshasa. Professeur, aujourd'hui nous parlons de l'octroi des bourses d'études. C'est vraiment difficile pour accéder à ces bourses, comme ont témoigné les auditeurs. Mais professeur, dites-nous quelle est l'importance de ces bourses pour le développement de la RDC.
Je vous remercie, madame la journaliste, de m'avoir assisté à cette émission pour apporter ces informations utiles et pratiques. J'ai l'attribution de bourses, évidemment en complément de ce que madame la conseillère vient de dire. Mais je voudrais quand même rectifier ma présentation. Je suis le directeur, je suis professeur à l'IFACIC et je suis directeur du Centre de documentation de l'enseignement supérieur universitaire de l'Institution, que je suis en Suisse. Alors, je voulais dire que le groupe, évidemment, c'est une allocation qui est attribuée à un étudiant pour le mettre un peu à l'abri de certaines situations afin de mener ses études. Dans notre pays, évidemment, le système a bien fonctionné jusqu'en 1990, mais après 1990, évidemment, on a constaté que le système n'a pas du tout fonctionné. Alors, comment je sais que vous voulez ajouter comme information tout au long de cette émission? D'abord, au niveau de notre pays, il y a des bourses locales
et également il y a des bourses donc, pour aller faire des études à l'étranger. Alors en ce qui concerne le bourse locale, ce sont des bourses évidemment qui sont attribuées par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire.
S'il vous plaît, professeur.
Oui.
On ne vous suit pas très bien. Si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, si vous êtes dans un local, vous pouvez carrément sortir dehors, être peut-être sous une véranda, donc que vous soyez un endroit assez dégagé, parce que là on ne vous suit pas très bien, le temps que la réalisation puisse vous recontacter pour qu'on puisse vérifier si le réseau ou bien la connexion est meilleure. Nous allons prendre d'abord Franck qui est en Autriche. Il est boursier, donc après Franck, nous allons revenir à vous, professeur Jean-Pierre, le temps de pouvoir constater s'il y a une amélioration dans la connexion. Bonjour Franck.
Oui, bonjour Madame Marie Chantal et merci pour la parole, mais avant d'intervenir, j'aimerais déjà porter une modification.
Mm-hmm.
Pour le moment, je ne suis plus boursier, j'avais bénéficié d'une bourse des institutions ecclésiastiques.
Mm-hmm.
Mais pour le moment, je dois travailler pour financer une partie de mes études. Mais mm-hmm. je veux peut-être évoquer deux problèmes qui ont déjà été évoqués. C'est le problème de la planification de ces gens à qui ces bourses sont octroyées. Et le deuxième aspect, c'est les conditions d'accueil et la dimension de la politique salariale.
Mm-hmm.
Selon mes expériences, j'ai souvent constaté que quand on s'entretient avec certains copains sur place qui ont obtenu certaines bourses, il y en a qui ne savent pas d'abord les filières à travers lesquelles ces bourses sont octroyées.
Mm-hmm.
Bon, il y en a qui se demandent, mais il suffit d'être en contact avec quelqu'un qui travaille soit au ministère des Affaires étrangères, soit dans des ambassades, où il est quand même bien informé, bien branché avec certains politiciens,
mm-hmm.
pour qu'il puisse être bien informé sur cette filière-là.
Mm-hmm.
Bon, oui, quand toutes ces bourses-là sont accordées, quelque part, on regrette, donc il faut avoir de très bonnes relations avec quelqu'un au niveau du ministère,
mm-hmm.
soit au niveau de l'ambassade, qui arrive quand même à soutenir votre dossier. Pour déjà dire que, sans cet aspect-là, si vous n'avez pas de relations, donc l'octroi de bourses est vraiment difficile.
Filtré.
Alors, quand vous avez étudié, vous vous préparez à rentrer, parfois les conditions, il n'y a pas de disposition prise pour vous accueillir au pays. Je viens à peine de suivre l'intervention de madame qui intervient là. Elle a dit qu'avant d'aller, il y a des gens qui avaient déjà travaillé et quand ils reviennent, ils ne peuvent pas avoir peur. C'est vrai ce qu'elle dit là. Mais je crois que nous devons aussi analyser ce problème avec beaucoup de réalisme. Donc on vient étudier pour venir travailler chez nous. On se laisse former pour venir prêter main forte, pour créer des structures, pour soutenir. Mais nous devons aussi reconnaître que quand quelqu'un revient là pour travailler, les gens qui sont sur place ne sont pas prêts pour accepter la différence au niveau de la pensée, la différence au niveau du savoir-faire, la différence au niveau de la manière de raisonner. Ça signifie que chez nous, il y a déjà une manière de faire qui doit continuer comme ça. Ça signifie que quand on est déjà habitué à soutenir la manière de faire avec des antivaleurs, on ne peut pas accepter que quelqu'un vienne dire « ça, c'est pas bien, ça doit, ça tue des futurs de chez nous ». Ça, c'est un point de deux. Pour quelqu'un qui a travaillé à l'équipe, je concède à l'argument de madame que quelqu'un qui a déjà travaillé comme assistant, il finit sa thèse, il revient, mais on doit quand même se préparer pour le recevoir, madame. Il ne va pas rentrer là-bas, vous ne savez pas le loger, vous ne savez pas quand même lui donner des conditions de vivre. Ça fait mal.
Mais
alors, on se demande maintenant, on étudie pourquoi.
Mais tant que vous avez
été. Chez nous, je crois, nous devons les reconnaître. Il y a des gens qui sont prêts à rentrer pour travailler, mais sur place, l'esprit est tel qu'on est. On n'accorde pas assez de possibilités à ces gens-là pour travailler.
Mmh.
Il y a des intrigues, il y a des magouilles, il y a des ruses, il y a des mesquineries. Et la politique salariale, madame, c'est une des questions qui doit encore vraiment être repensée.
Oui, mais quand vous avez dit.
On est pour travailler,
oui.
Mais on ne doit pas travailler gratuitement pour ne rien recevoir à la fin du mois. Vous allez vivre de quoi?
Oui, surtout que vous avez déjà une nouvelle expertise, donc vous devez peut-être recevoir plus normalement. Mais Franck, dites-nous, vous avez été boursier, comment vous avez fait pour avoir cette bourse? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment ça se passe.
Oui, moi je suis pasteur, donc j'ai reçu ma bourse par le canal d'Indusèze. Donc je suis venu en Europe comme quelqu'un qui étudie pour le compte d'une église locale. J'ai fait la première partie de mes études théologiques, philosophiques et politiques en sciences sociales. Je suis rentré au pays, j'ai travaillé dans des institutions ecclésiastiques. J'ai enseigné pendant 2 années académiques. J'ai eu des problèmes de santé, alors je suis rentré pour me faire soigner et à l'occasion, j'allais profiter pour me faire inscrire pour continuer le troisième cycle de doctorat. Alors, comme je n'avais plus de bourse pour le troisième cycle, j'ai négocié pour que je me trouve un job, je travaille à 60% et cela me permet de me payer les études qui coûtent énormément cher ici. Alors en 2006, j'ai dû encore interrompre mes études pour rentrer enseigner et revenir. Mais là, il faut aussi me demander, on travaille là dans quelles conditions?
Oui,
peut-être des questions que nous devons nous poser et répondre.
Oui.
Donc je crois que la volonté de rentrer au pays est là. Beaucoup de gens aimeraient rentrer, mais nous devons les reconnaître que sur place, l'esprit n'est pas encore bon. Donc les gens ne veulent pas voir ceux qui viennent étudier rentrer, mais dans l'entretemps, on nous critique qu'ils ne veulent pas rentrer. Mais quand vous rentrez, comment l'esprit est-il sur place? J'aimerais que madame puisse aussi nous répondre comment l'esprit sur place. Quand on rentre là, soit on ne te laisse pas travailler, si tu enseignes, il y a des gens qui courent à côté pour dire que non, ce qu'ils disent là, c'est déjà dépassé. Ou bien, on prépare les étudiants pour vous contester et ils ne s'affirment pas. Et quelque part, vous vous découragez et vous préférez rester ici parce qu'on dit un tiers vaut mieux que deux qu'il aura. Tu restes ici, tu as fait une thèse de doctorat, quand tu es contente et du peu qu'on t'offre ici par rapport à ce que tu devais encore offrir là-bas comme opportunité ou bien comme expérience.
Oui, voilà. Merci beaucoup, Franck, pour votre témoignage hein, aussi. Vos préoccupations concernant ce sujet, ce qui devient, en fait, on comprend que c'est un sujet qui incite beaucoup de passion. Nous allons écouter Lot qui est à Calémy. Bonjour, Lot.
Bonjour, Lot. Madame Chantal. Bonjour, madame Marie-Chantal.
Lot, on vous écoute.
Ok, en tout cas, ici, chez nous, à Calémy, nous déplorons assez la situation qui se déroule que la dame est aussi en train de dire. C'est déplorable. Nous, les étudiants, si on ne comprend pas comment est-ce que, quand on dit que les bourses sont offertes seulement à Kinshasa, c'est seulement les étudiants qui ont accès à ces bourses-là. Mais ici, chez nous, ce n'est pas en tout cas. Ça n'arrive même pas ici. On déplore cette situation là-bas.
Donc, vous voulez que ça puisse aussi arriver dans les provinces. Merci beaucoup, Lot. Nous revenons au professeur Jean-Pierre Manoana. La réalisation me fait signe que maintenant la connexion, la liaison est assez bonne. Professeur, on vous écoute, on voudrait savoir, selon vous, quelle est l'importance de ces bourses pour le développement de la RDC.
Voilà, madame la journaliste, j'espère que vous m'écoutez très bien maintenant.
Bon, il y a encore quelques... on ne vous entend pas très très bien, mais on va...
Je suis dehors.
Oui, on peut...
Ça va mieux ?
Oui, essayez un peu de parler, on vous écoute, si ça ne va pas très bien, peut-être on pourra vous appeler sur votre second numéro, comme ça ce sera meilleur. Professeur, on vous écoute.
Oui, je vous remercie de m'avoir associé à cette émission pour apporter un certain nombre d'informations par rapport à l'attribution de bourses au niveau des étudiants d'enseignement supérieur et la contribution de ces bourses à la formation des cadres.
En tout cas, professeur, ce n'est pas toujours bon, la qualité n'est pas du tout bonne. On va essayer de pouvoir... on va vous contacter sur votre deuxième numéro, la réalisation va vous contacter pour qu'on puisse... vous suivre. Donc, le réalisateur est de l'autre côté. Il va vous prendre en privé pour que vous puissiez donner votre numéro de téléphone, comme ça qu'on puisse vous contacter sur votre second numéro. Nous revenons à vous, Madame Maindo. Donc, vous avez suivi encore ce lot d'auditeurs qui ont vraiment plusieurs préoccupations. C'est une réalité qu'ils sont en train de vivre hein, concernant les boursiers. La plupart ne reviennent pas. Mais est-ce que vous avez des statistiques, madame?
Oui, nous avons les statistiques pour savoir, pour dire voilà combien de bourses ont été déjà octroyées toutes ces dernières années. Bon, je peux dire que depuis 2004, dans nos statistiques, nous avons plus de 1000 bourses qui ont été octroyées. ces bourses venaient donc, disons, c'est vraiment des bourses de plusieurs pays.
Mm-hmm.
Nous avons les pays de l'Europe, nous avons l'Asie,
mm-hmm.
nous avons aussi l'Amérique et nous avons même des pays de l'Afrique du Nord, y compris l'Afrique du Sud.
Mm-hmm.
Donc nous avons l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Sud, les Cuba, la Chine, la Corée du Nord, la Belgique, l'Italie, la Grèce, la Pologne, la Russie,
mm-hmm.
il y a aussi l'Inde, et il y a aussi des bourses qui viennent par l'UNESCO,
mm-hmm.
ou encore par la FAO, donc comme j'avais dit, ce sont des bourses co-parrainées, et donc c'est peut-être pas exhaustif, mais en tout cas ça ce sont les principales bourses qui sont que nous avons eues ces dernières années.
Et combien ne reviennent pas?
Bon, ceux qui ne reviennent pas, c'est vraiment un plus grand nombre. Comme j'ai dit, ça dépend, non seulement ça dépend des pays, mais ça dépend aussi parfois des villes. Là, les gens sont en train de dire que c'est seulement Kinshasa qui reçoit les bourses. Moi, je viens de Kisangani.
La plupart des habitants de Kinshasa qui bénéficient
de bourses. Oui, je disais que moi, je venais de Kisangani, mais là-bas, il y a vraiment beaucoup de boursiers qui sont partis, et même là-bas, les boursiers reviennent. Mais c'est toujours les mêmes conditions de travail. Ce sont des boursiers des universités, mais ces boursiers reviennent. Il y a des boursiers de l'intérieur de Bukavu et d'autres provinces qui écrivent. Nous recevons leurs lettres,
mm-hmm.
nous recevons leurs demandes et nous les enregistrons. Mais quand, par exemple, à Kalemie, on dit, voilà, les bourses ne sont pas arrivées à Kalemie. Alors que là, comme je l'ai dit, nous utilisons le moyen de communication qui existe, qui sont disponibles.
Peut-être qu'il faudrait revoir votre politique de communication.
On pourrait peut-être l'améliorer, mais comme j'ai dit, en tout cas, les moyens que nous utilisons, ce sont les moyens d'actualité. Et donc, c'est plutôt les boursiers eux-mêmes ou les candidats boursiers des établissements qui ne réagissent pas toujours.
Oui, Madame Scola, nous allons suivre ensemble notre bulletin d'information tout de suite qui va intervenir juste après. Nous avons une seconde partie de notre émission. Nous poursuivons cette émission dans sa seconde partie. Chaque mercredi, nous commençons à 10h, heure de Kinshasa, pour une première partie jusqu'à 11h. Et de 11h jusqu'à 11h15, nous avons une seconde partie de parole aux auditeurs. Et bien qu'aujourd'hui, nous parlons des bourses d'études, il faudrait dire qu'il y a plusieurs personnes qui se posent des questions. Comment bénéficier de ces bourses d'études? Il y a tellement de flou pour pouvoir accéder à ces bourses d'études. C'est pourquoi aujourd'hui nous en parlons, et surtout de savoir quelle est l'importance de ces bourses dans le développement de la RDC. Dans ce studio, nous avons Madame Scola Maindo, qui est conseillère chargée de la coopération et du partenariat au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. En fait, c'est ce service qui est chargé de l'octroi des bourses. Mais nous avons aussi en ligne le professeur Jean-Pierre Manoana. Nous espérons que maintenant, là, la liaison est meilleure. Bonjour, professeur.
Oui, bonjour, madame la journaliste. J'espère que ça va mieux maintenant.
Oui, c'est en tout cas meilleur, professeur. Nous avons constaté qu'il y a plusieurs étudiants qui bénéficient de ces bourses, mais qui, curieusement, bon, il faut dire que par rapport à la demande, hein, il y a moins qui en bénéficient. Mais pour le groupe minime, en tout cas, quelques personnes qui bénéficient de ces bourses, la plupart ne reviennent pas au pays. Dites-nous un peu quelle est la conséquence de cela.
Oui, cela évidemment a une conséquence, c'est la perte de cerveau. Hein. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est ce qui explique le manque des enseignants au niveau du supérieur.
Mm-hmm.
Parce que si vous remontez un peu dans l'histoire de l'enseignement supérieur, il y a eu à partir des années 1990 la rupture de la coopération avec la coopération bilatérale avec certains pays qui attribuaient des bourses. Donc, cela, évidemment, a affecté notre système d'enseignement supérieur.
Mm-hmm.
Et la plupart des gens qui étaient à l'étranger ne voulaient plus rentrer. Donc, mm-hmm. ils sont restés, évidemment, pour des conditions matérielles qui étaient difficiles au niveau du pays. Et ce qui explique, donc, aujourd'hui, la carence des enseignants, donc, au niveau du supérieur.
Mm-hmm.
Mais je voulais quand même, sans évidemment contester ce que les auditeurs ont dit, ce que madame a dit, je voulais quand même apporter un certain nombre d'informations pratiques
mmh.
en ce qui concerne l'attribution de bourses en République démocratique du Congo. Actuellement, à part évidemment les voies et moyens que le ministère vient de nous donner, Au niveau, par exemple, de la structure que je dirige, le centre de documentation de l'enseignement supérieur universitaire et de la recherche de Kinshasa, c'est des sites en sigle, nous abritons ce qu'on appelle un campus numérique de l'Agence universitaire de la francophonie, qui donne donc la possibilité aux Congolais d'obtenir certaines bourses, surtout pour des thèses qui sont rédigées en CODITEL. Donc ça signifie que le récipiendaire a un professeur ici localement et il a trouvé un autre professeur de l'autre côté qui est son répondant. Mmh. Et l'agence universitaire attribue dans ces cas, donc si évidemment les deux côtés se mettent ensemble, une bourse de mobilité de l'étudiant qui lui permet de se déplacer en Europe pour se documenter. Vous savez, il y a un autre problème évidemment au niveau de nos universités, c'est le manque de la documentation. Il y a la documentation qui fait défaut, bien que les solutions évidemment aient été créées dans cette perspective-là, mais il y a quand même, par exemple, pour des disciplines pointues, comme par exemple les sciences de l'ingénieur, des choses comme ça, il faut nécessairement donc se déplacer pour aller à l'étranger. Alors, je voulais également souligner une autre possibilité, et ça, je m'adresse aux enseignants. Il y a des bourses de mobilité des enseignants. Donc, les enseignants peuvent également donc aller dans les espaces francophones, dispenser des cours, participer à un congrès, participer à un séminaire, et l'agence universitaire, évidemment, prend en charge dans cette catégorie d'enseignants. Mais il y a un volet très, très important, et les Congolais ne tirent pas encore profit de cela. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les formations à distance. En sigle, on appelle la FOAD. En anglais, on appelle e-learning. Ces genres de formations sont vraiment une voie pour que les Congolais, évidemment, puissent se former davantage. Et au campus numérique, nous avons la possibilité. Donc, il y a au moins, l'AIF met à la disposition des Congolais et de tous les autres ressortissants de tous les autres pays, au moins 65 formations en ligne et dans tous les domaines du savoir humain. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous vous inscrivez dans une université européenne, donc en France, en Belgique, mais vous suivez les formations en ligne à partir des dispositifs qui existent ici en République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa. Alors n'oubliez pas, j'insiste, que le campus numérique n'existe pas seulement à Kinshasa, mais il y a un autre campus numérique à Lubumbashi. Alors les gens vont dire, mais nous qui sommes à Bunia, à Ituri, qu'est-ce qui se passe? Mais à Ituri, il suffit d'avoir une bonne connexion Internet, vous aurez également donc la possibilité donc, de suivre cette formation. Alors actuellement, les campus numériques vient de diplômer au moins plus de 70% donc des Congolais qui ont obtenu des diplômes comme si ces Congolais étaient à l'étranger. Alors ces diplômes viennent des universités de Paris, des universités de Nantes, des universités du Québec, etc. etc. Donc voilà, et ce sont des pistes à mon avis que les Congolais peuvent exploiter pour se former davantage. Parce que c'est grave. Donc un pays donc, comme le nôtre a besoin du personnel bien formé pour son développement. Or, ce genre de personnel fait défaut. Le cas le plus simple, c'est l'enseignement supérieur. Il y a manque de professeurs. Il y a des gens qui se mettent à créer des établissements, mais le personnel ne suit pas. Oui, donc voilà, les Congolais peuvent tirer profit de ces structures qui existent pour, évidemment, la formation des cadres dont le pays a besoin donc pour son développement.
Oui, mais professeur, l'une des raisons pour lesquelles, les intellectuels, les gens qui ont étudié à l'étranger ne reviennent pas au pays, ce sont les conditions d'accueil ici sur place. Donc, on peut avoir des étudiants qui passent par le campus numérique, qui ont un document valable, mais ils se retrouvent pour avoir de l'emploi avec ce document valable, ça devient assez difficile. Donc, on revient sur la même situation. Est-ce que cela peut encourager les gens?
Oui, c'est vrai. Le marché de l'emploi, d'abord, il est difficile. Et même si vous trouvez un emploi, donc vous n'êtes pas payé comme il faut. Mais c'est ce qui explique donc que beaucoup de Congolais qui sont formés à l'étranger, qui ont obtenu soit des bourses du gouvernement congolais, soit des bourses évidemment des autres pays, préfèrent rester à l'étranger donc pour mener une vie convenable.
Mm-hmm.
Je suis professeur d'université. Si je vous donne mon salaire, ben vous allez rigoler. Mais ce qui est vrai que le ministère est en train de se battre pour que nos conditions soient donc revues. Mais à mon avis, ce n'est pas une raison. À mon avis, il faut être nationaliste aussi. Aimer son pays, travailler dans les conditions qui sont les nôtres. Bon, nous qui sommes ici, je ne peux pas dire que nous sommes totalement des misérables, mais nous essayons de nous adapter aux conditions de vie des Quinois. Cet aspect également, c'est un aspect donc à mettre en avant pour évidemment demander aux Congolais qui traînent par-ci par-là à l'étranger de regagner quand même les pays pour qu'ils contribuent quand même au développement de ces pays.
Merci.
Nous avons besoin des capacités, nous avons besoin de personnel formé pour développer notre pays qui est un sous-continent.
Merci beaucoup, professeur, pour votre intervention. Nous prenons rapidement Fiston, qui est au bout du fil à partir de Calémy. Fiston, vous avez peut-être le malheur d'être le dernier auditeur. En une minute, que pensez-vous en fait des bourses d'études?
Allô, madame, je vous reçois très
bien. Oui, Fiston, on vous écoute en une minute.
Ok, madame Chantal, quand je vais trop de nos bourses, comment? Quand je suis un étudiant à l'étranger de Ghana, c'est un jeu pour l'économie. Je suis un jeu pour l'économie. Je n'ai jamais eu un petit peu en France. Mais il y a des fois que l'argent arrive, c'est un prix qu'on donne aux gens. Parce que c'est 10 000 francs. Parfois, c'est parce qu'ils nous comprennent qu'ils pensent qu'il y a, ils ont envoyé des dollars, mais si que les frais sont plus salons, ils sont 8 000 francs. C'est là, c'est rarement,
comment. En tout cas, merci, on comprend votre préoccupation, c'est sur la bourse qu'on donne aux étudiants en RDC, les finalistes de cycle, hein. Donc vous dites que vous n'avez jamais reçu cet argent. Nous vous redonnons la parole, Madame Scola Maindo, nous sommes à la fin de cette émission, pour conclure.
Oui, pour conclure, je vais répondre d'abord à la question de Fiston, pour rappeler aussi à tout le monde que les bourses locales donc données par le gouvernement congolais existent bel et bien. Pour cette année, il y a 74 849 étudiants finalistes qui sont donc enregistrés dans nos documents. Et pour ces étudiants-là, donc normalement, la bourse viendra.
Mm-hmm.
Mais il faut savoir que la bourse, on ne donne pas de premier graduat en deuxième licence.
Mm-hmm.
La bourse, c'est seulement pour les finalistes de troisième graduat et de deuxième licence. Donc ça, c'était un premier appel. Je rappelle aussi que les bourses internationales existent bel et bien. Il faut toquer à la bonne porte, il faut suivre la procédure, et la bourse est réservée donc à tout le monde, il suffit seulement de rentrer les conditions.
Merci beaucoup, Madame Scola Maindo, d'avoir répondu à notre invitation. Nous disons aussi merci au professeur Jean-Pierre Manona pour nous avoir accordé de son temps. Merci aussi aux auditeurs. Demain, nous avons un prochain rendez-vous. Ce sera demain, pour savoir que le 12 mai, c'est la journée internationale de l'infirmier. Une seule question pour lancer notre discussion. Que représente pour vous la fonction infirmière? Réagissez dès à présent. Nous écrivons à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Nous nous retrouvons demain à partir de 11h, heure de Kinshasa. Et surtout, bonne suite de programme sur Radio Okapi.